Ce podcast aborde des sujets difficiles, notamment des violences sexuelles.
On nous parle souvent du choix. Elles ont choisi, elles aiment ça. Elles savent où elles vont.
Nous, survivantes d'inceste, de violences intrafamiliales ou de prostitution, on cherche la dissociation.
Nous, les survivantes de la prostitution, on est les dernières oubliées du mouvement MeToo.
Moi, j'avais pas l'impression que c'était un métier, c'était un calvaire.
Maintenant, j'ai 58 ans, j'avais 45 ans quand j'ai commencé, alors...
Comment une banale jeune fille qui a pas spécialement de problèmes dans sa vie peut se retrouver sur le chemin de la prostitution?
Je suis survivante de la rue, survivante de la prostitution.
J'avais envie de tout détruire, de casser toute ma vie, je me retrouvais dans la prostitution de nouveau.
On peut pas guérir le viol avec le viol,
on a survécu.
La vie en rouge, un podcast conçu et réalisé par des femmes ayant connu la prostitution. Épisode 2, dans la prostitution, on cherche la dissociation.
Je m'appelle Rosalie, j'ai 29 ans, j'ai été... prostituée de mes 15 ans jusqu'à mes 21 ans.
Moi, c'est Alexine, j'ai 27 ans, j'ai vécu dans la prostitution de mes 19 à 21 ans. Moi, ce qui m'a sortie de la prostitution, surtout de l'emprise de la prostitution, j'ai envie de dire, parce que c'est pas que une fois que t'es sortie, que ça y est, tu t'es débarrassée, désintoxiquée de tous les actes, de tout ce qu'on t'a dit à l'intérieur, enfin, dans ce milieu, quoi. Moi, vraiment, c'est quand j'ai commencé à m'intéresser à de la politique. Enfin, en premier lieu, moi, je me suis intéressée à l'anarchisme. Mmh. Et ça a été mon biais d'entrée pour le féminisme, MeToo. Surtout MeToo, ça m'a explosé à la figure. Je sais pas combien d'heures j'ai passé à lire des textes, des tweets de femmes qui s'emparaient de ce hashtag sur Twitter pour parler de leur vécu, de leur agression sexuelle, et je m'y retrouvais. Et en même temps, je disais, mais c'est pas pareil, parce que elle le voyait pas venir, alors que moi, dans la prostitution, je m'y attendais, tu vois. Je sais que c'est une fatalité, ça va arriver, on va me faire du mal, et enfin, il faut que je fasse avec. J'avais vraiment l'impression d'aller à l'abattoir, mais il fallait que je me trouve des parades pour me dire que non, ça va. Enfin, quand j'étais dedans, en plein milieu, je me disais non, pleure pas, pas maintenant, tais-toi. J'étais horrible avec moi-même, et je pensais ça en même temps que ça se passait. Enfin, comment expliquer ça à des gens qui ne vivent pas ça, quoi? C'est compliqué. Et en fait, en écoutant des femmes parler de ça, je me suis intéressée de plus en plus au féminisme, et par pur hasard, il y a eu un documentaire qui est passé à ma fac, et c'était un documentaire sur Rosen. C'était la première fois que j'écoutais une femme anciennement prostituée dire que elle aussi, elle a vécu des violences sexuelles. Elle aussi, me too, tu vois. J'étais, waouh. Enfin, la révélation, ça y est, il y a quelqu'un qui le dit. Donc, je suis pas seule. J'osais même pas le penser, tu vois. L'entendre dans la bouche de quelqu'un d'autre, ça m'a permis de prendre conscience qu'on a le droit. En fait, on a tellement supprimé nos émotions. J'ai l'impression qu'on a été plusieurs à le faire, le client, moi, ma famille. Et donc, le fait que quelqu'un d'autre me dise, tu as le droit de dire que t'as vécu des horreurs, ça m'a redonné ma voix, moi, celle que j'avais continuellement essayer de censurer pendant la prostitution, pendant mon enfance. Et là, on me la redonnait. Et c'est trop puissant.
Moi, c'est quelque chose avec lequel j'ai encore beaucoup de difficultés de trouver ma voie. Notamment parce que j'ai vécu vraiment des actes de torture et de violence extrême. Une fois, j'ai lu un texte et je me suis dit, ah, enfin quelqu'un qui a vécu un truc similaire à moi. En fait, moi, je suis pas rentrée dans la prostitution directement. J'ai rencontré mon proxénète et ses amis, malheureusement. Et toute la période antérieure à la prostitution, ça a été une période de viol collectif et d'agression sexuelle très grave et très violente et très dégradante et humiliante pour moi. Et une fois que ça s'est passé, la période de prostitution, j'étais tellement dissociée, j'étais tellement malheureuse, j'avais tellement presque besoin d'estime de moi que, en fait, le fait de pouvoir être avec un seul homme, ça me donnait l'impression d'avoir une certaine valeur, en fait, et de pas être complètement morte, en fait. J'avais toujours un contrôle énorme de mon proxénète sur tout ce qui se passait, ce que je faisais, disais, etc. Il appelait les clients après pour savoir comment ça s'était passé, Il pouvait attendre devant la porte ou alors il attendait dans la voiture devant la maison de la personne. Ce qui faisait que moi, le moindre impression que quelqu'un en avait quelque chose à faire de moi, ça me donnait de la force pour avancer. Je me souviens d'une fois où j'étais vraiment au bord de la mort et il y a quelqu'un qui a mis une couverture sur moi et je me suis dit ok, bon, il y a quelqu'un au moins qui s'en fiche pas. Une couverture, hein. Pour ce qu'il venait de faire, je pense que... Les fois, en fait, où après, quand j'avais plus de proxénète, je me retrouvais toujours à être moins importante que le client. Au début, quand j'y allais, je me disais, je vais trouver quelqu'un, ça va être facile, je vais être super forte, je vais être belle, je vais être sexy, je vais être je sais pas quoi. Je vais les attirer comme du miel avec des mouches avec du miel ou du, je sais pas, quelque chose comme ça, quoi. Et puis, quand j'arrivais dans la situation en elle-même, je perdais tous mes moyens et en fait... Il y avait toujours un rapport de force tellement énorme du client fort et moi faible que je me retrouvais toujours à faire des trucs que je voulais pas faire, à dire n'importe quoi, à subir tout et n'importe quoi. Et du coup, ça, j'étais pas dans une meilleure situation qu'avec un proxénète. Et c'est difficile en fait de parler de tout ça et c'est très difficile de parler des événements qui se sont passés parce que mon proxénète avait vraiment une capacité de violence et un appel à la violence permanent. Et c'est ça qui donne l'impression qu'on est seul au monde, parce que parler de violence avec les autres, c'est pas très facile, en fait. Les gens sont très, 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 très vite limités dans leur capacité à écouter. Et je les comprends. Mais c'était vraiment difficile de trouver sa voix, en fait. Pour ça aussi que ça m'intéresse de faire ce podcast.
Ça me fait penser qu'on peut faire le parallèle entre l'enfance et... Enfin, non, pas toi l'âge adulte, vu que t'as été prostituée mineure. On nous a habitués à de la violence avec quelques miettes de gentillesse par-ci par-là. Nous, on s'accroche à les toutes petites miettes pour essayer de tenir le coup et d'aller bien, tout en essayant d'ignorer le reste super néfaste qui est en train de nous construire dans notre identité. Et en fait, on grandit avec une identité complètement scindée. Le bien et le mal, ils sont un petit peu à l'envers. Et on sait que c'est pas bien qu'on nous touche, qu'on nous agresse sexuellement. Mais en même temps, on essaye d'y trouver une certaine... une certaine forme de valeur ou de... je ne sais quoi... Quelque chose qu'on n'a pas ailleurs, en fait. La vraie affection, en fait, qu'on aurait dû recevoir. Pour moi, il est facile, et je le fais encore, d'entrer dans une pièce et de lire les humeurs et les postures et les comportements de certains pour voir qui est malheureux, qui est contente. Je ressens les émotions des autres et je peux pas m'empêcher de m'adapter, d'anticiper ce que veulent les autres, tu vois. Je me mets toujours dans les chaussures des autres et en fait j'oublie souvent d'être dans les miennes. Je me sens toujours obligée de plaire à tout le monde, d'être très convenante, conciliante, de faire en sorte que tout le monde soit ok, même si ça veut dire que moi je suis pas bien non plus. C'est une situation extrême, la prostitution par exemple, où t'es obligée de donner quelque chose de complètement intime à un inconnu. C'est vraiment dans le secret, le tabou, le fait que c'est censé être discret, invisible. C'est quelque chose qu'on garde pour soi, pour toujours, et c'est... En fait, ça bouffe, quoi.
Quand on en parle aux autres, quand on en est sorti souvent, après, pendant, je sais même pas comment on peut en parler aux autres, sûrement que c'est possible, hein, mais personnellement, je ne l'ai jamais fait. En fait, on se retrouve face au tabou, on se retrouve face au stigma, on se retrouve face à des gens qui ne comprennent pas, qui jugent, qui nous mettent la honte, qui nous foutent la honte pour un oui, pour un non, ou alors qui se protègent d'essayer de comprendre la réalité de ce que c'est en utilisant tous les trucs de la société qui les aident à passer outre le fait que ce soit une violence extrême. Donc c'est très difficile, je trouve, de parler de ça avec des gens qui ne sont pas informés. Et quand on est encore dedans, j'ai l'impression qu'on n'a pas le droit de s'en plaindre parce que on l'a choisi. Non, non. On y est contraint, que ce soit financièrement, psychologiquement ou par plein de contraintes différentes. Il y a plein de choses qui peuvent mener à la prostitution, mais c'est ça qui est compliqué, je trouve, de justement toujours avoir à déconstruire en fait la pensée de l'autre en face de soi pour pouvoir parler de prostitution. Et c'est pour ça que c'est agréable de parler à des personnes qui ont survécu, parce que pour une fois, on peut ne pas avoir à toujours déconstruire la pensée de l'autre, ne pas toujours se trouver face à quelqu'un qui t'explique que ben, si tu l'as fait, c'est que c'était bien, que tu avais envie.
On parle très librement parce qu'en fait, toutes les deux, on sait ce que c'est. Donc, il n'y a pas à devoir expliquer à quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est la réalité dont on parle, en fait. Mmh. Alors que nous, ça a été notre quotidien.
Mmh. Ouais, c'est clair. T'as dit que t'avais pas connu de sexualité en dehors de, des agressions. Moi, c'est comme ça que je m'en suis sortie. C'est-à-dire que j'ai trouvé un copain. J'ai trouvé un petit ami. J'avais 20 ans. 21 ans. J'ai découvert, en fait, avec lui que c'était possible de passer un mois entier à dormir avec quelqu'un sans jamais qu'il cherche à me toucher ou à me coucher avec moi. Ce que je trouvais complètement dingue à l'époque. Vraiment complètement dingue, l'imaginaire que quelqu'un puisse dormir toute une nuit à côté de moi sans essayer de me violer, c'était un truc impossible. Donc quand c'est arrivé, j'étais là, mais il est pas mal en fait ce mec. Et bon, il a plein d'autres qualités. Ça me paraissait dingue et en fait ça m'a ouvert une porte. Ça m'a donné une idée que quelque chose d'autre existait en fait, que je pouvais avoir une sexualité qui était complètement différente et puis du coup je m'en suis donné à cœur joie et puis c'était génial pendant toute une longue période. Ça a été une belle période et une période pour moi de retrouvailles de désir, de plaisir, de joie, de partager ça toujours avec la même personne aussi, toujours avoir à changer de personne, c'était insupportable. On les rencontre une fois, on les revoit plus jamais. J'ai une personne qui m'a dit une fois que elle se sentait sale après un coup d'un soir. Alors, elle pouvait comprendre que un coup d'un soir avec la prostitution ajoutée, donc un échange d'argent, c'était encore pire, ce qui est vrai. Puisqu'on ne sait rien des clients, on les rencontre, on couche avec, on s'en va. On sait pas comment ils s'appellent, on sait pas que... Moi, je me souviens pas de leur tête.
C'est assez spécial parce que j'ai discuté avec énormément de survivantes de la prostitution à l'international. Il y en a pas mal qui me disent, moi, j'étais tout le temps droguée, j'ai fait plein de blackouts, je me souviens pas de leur visage et tout. Alors que moi, c'est tout le contraire, en fait. Je me souviens exactement de leur visage. C'est atroce. En fait, moi, par rapport à l'inceste, c'est pas exactement l'amnésie, c'est surtout une hypermnésie. Je passe mon temps à repenser au passé, à des scènes en permanence. Et moi, je n'étais pas droguée ou je buvais pas pendant la prostitution parce que je le faisais après. Quand j'allais mal. Parce que quand j'étais dans la prostitution, j'étais dissociée, donc j'avais pas mal, j'étais coupée de mes émotions en général. Enfin, j'essayais du moins, du mieux que je pouvais. Et c'est une fois que je sortais, que j'allais mal et que je laissais sortir les pleurs, la douleur. Je faisais n'importe quoi, je faisais des teufs, je buvais jusqu'à parfois avoir des blackouts. Je me rappelle de l'emplacement des appartements, de quelle couleur était ce truc, qu'est-ce qui passait à la télé. Je fais attention à tous les détails. Autre que ce qui se passe maintenant, la passe en lui-même. J'ai utilisé ce terme quand j'étais dedans, mais...
Oui, moi non plus. Mais ni le terme prostitution, d'ailleurs. Moi, j'étais pas appelée prostituée, à part par les clients, qui du coup m'insultaient, mais les autres personnes m'appelaient prostituée.
Moi, je disais juste « étudiante en manque d'argent ». C'est tout. Je suis rien d'autre. J'osais même pas dire « escorte ». Je suis « ouais, mais escorte, c'est quand même connoté prostitution. Moi, je suis pas une prostituée, moi. Je fais ça... pour quelques semaines, c'est tout.
Oui, c'est
je suis restée 2 ans.
Quand j'étais adulte, je proposais plus les actes. Je disais tel truc pour tel argent, plutôt que de parler de prostitution ou de prostituée ou quoi que ce soit. Je disais juste, je fais ça pour ça.
Moi, je faisais deux trucs et pas au-dessus.
Mon proxénète, c'était vraiment quelqu'un qui était horrible, hein, je le dirais jamais assez, je pense. Et qui, du coup, m'interdisait de dire non. Donc, je n'avais absolument pas le droit de dire non, donc je pouvais que dire oui, et ça coûte plus cher. Et quand, malheureusement pour moi, j'ai dit non une ou deux fois, ils appelaient mon proxénète pour qu'il me force à le faire. Et donc, j'avais pas le choix. Et moi, pour le coup, j'ai été droguée contre ma volonté. Et alors, l'alcool, pour le coup... Il y en avait beaucoup, il y en avait toujours. Il était tout le temps sous mon proxénète. Moi, j'en prenais pas mal, mais j'étais plus droguée que sous. Après, c'est ça qui est compliqué, c'est que j'avais beaucoup de blackouts. Hein, j'en ai eu beaucoup. Mais mon proxénète avait trouvé des solutions pour que j'en fasse pas, pour que je tombe pas dans les pommes. Et j'avais presque l'impression qu'il faisait ça pour que les clients ne puissent pas aller trop loin. Parce qu'il avait parfois un peu peur de à quel point les clients pouvaient s'embarquer dans des idées, dans des concepts. Il y avait des limites, mais alors je vous dis pas les limites, quoi.
Aussi.
Ouais, c'est ça. C'était un peu, je la protège, quoi.
Ouais,
mais bon, je la protège en la droguant. Je joue pour que ça fonctionne.
Marchandise, quoi.
Oui, c'est ça. C'est un peu ça, genre.
Dans ce sens-là.
Oui, c'est ça. Il faut qu'elle fonctionne demain, quoi. Donc, du coup, si je la casse aujourd'hui, elle pourra pas revenir.
Nous, Alexine, Anne, Lexi, Rosalie, Rosen, Valérie, qui avons connu la prostitution, et qui avons pu nous en sortir. Nous avons conçu et réalisé ce podcast pour parler entre nous, pour dire ce qu'est vraiment la prostitution. Si vous aussi vous avez vécu ou vivez encore de la prostitution, sous quelque forme que ce soit, et vous avez envie d'en parler, vous pouvez nous contacter sur les comptes Instagram ou TikTok de La Vie en Rouge.
La Vie en Rouge, un podcast conçu et réalisé par des femmes ayant connu la prostitution.
L'ensemble des épisodes sont disponibles sur les plateformes habituelles. Avec le soutien éditorial, logistique et financier du Mouvement du Nid, enregistré au studio La Poudre à la Cité Audacieuse. Merci à la Fondation des Femmes pour son soutien indéfectible à toutes les femmes victimes de violences.